10 minutes avec.
Radio Grenouille. 10 minutes avec.
La rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Christian Bruschi, professeur d'histoire du droit, avocat honoraire et spécialiste du droit des institutions politiques. Nous sommes à la librairie Transit, une librairie associative dédiée à la pensée critique, où s'est tenue une conférence sur l'état d'urgence et sa possible inscription dans la Constitution française. Christian Bruschi, comment peut-on définir l'état d'urgence ?
L'état d'urgence est décidé dans des circonstances exceptionnelles, soit parce qu'il y a un péril imminent pour l'ordre ou la sécurité publique, soit du fait d'une calamité naturelle. Ça peut être aussi donc décidé pour une calamité naturelle par le gouvernement pour 12 jours. Et l'état d'urgence restreint un certain nombre de libertés, qu'il s'agisse de libertés individuelles ou de libertés collectives. Sans entrer dans le détail, on connaît les assignations à résidence, les perquisitions, le couvre-feu, etc. Voilà comment on peut définir l'état d'urgence.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le calendrier de ces derniers mois concernant l'état d'urgence ? Le 13 novembre 2015, l'état d'urgence est déclaré. La semaine suivante, il est généralisé pour 3 mois. Une réforme de la Constitution est annoncée dans le même temps, avec un avis favorable récemment du Conseil d'État. Quelle est la manœuvre juridique aujourd'hui pour que cet état d'urgence soit constitutionnalisé ou pas ?
Alors, le gouvernement va présenter un projet de loi constitutionnel, à la fois d'ailleurs sur l'état d'urgence et sur la déchéance de nationalité, même si la déchéance de nationalité ne s'inscrit pas dans l'état d'urgence. La loi constitutionnelle comportera les deux dispositions. Le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, doivent délibérer sur le projet de loi constitutionnelle et l'adopter à la majorité. Par la suite, on réunit à Versailles, puis c'est toujours à Versailles qu'on le réunit, le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en même temps, congrès qui doit adopter la réforme constitutionnelle par une majorité des 3/5. Ça s'appelle une majorité qualifiée.
Une telle mesure a-t-elle déjà été appliquée en France ?
L'état d'urgence jusque-là ne se trouve pas dans la Constitution. Il a été créé par une loi du 3 avril 1955, au moment de la guerre d'Algérie, et donc il a commencé à s'appliquer en Algérie. Puis en 1958, lors des troubles qui ont précédé l'arrivée, le retour au pouvoir du général de Gaulle, on a encore une fois décrété l'état d'urgence en métropole. Et de nouveau, en 1961, lors du putsch des généraux, donc le putsch d'Alger, en avril 1961. On l'a encore appliqué en Nouvelle-Calédonie en 1984, et on l'a encore appliqué en 2005, lors des émeutes des banlieues. Voilà.
Existe-t-il un état d'exception envisagé dans le droit, dans les autres pays européens, chez nos voisins européens ? Et a-t-il déjà été appliqué ?
Il y a, dans la plupart des autres pays européens, les constitutions prévoient un état de crise, qui est un état d'exception. Donc, de ce point de vue-là, c'est le cas. Cependant, là, je n'ai pas vraiment vérifié. Il me semble que cela n'a jamais été appliqué, ou si ça a été appliqué, c'est de façon totalement, rarissime. Mais le document sur lequel j'ai travaillé, qui est un document du Sénat français, ne portait que sur 6 pays, pas sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et j'en oublie un. Donc je ne peux pas en dire plus.
Quelles sont les restrictions de liberté individuelle et collective inscrites dans un état d'urgence, si vous pouvez les énumérer ?
Chaque fois que l'on proclame l'état d'urgence et qu'il y a une loi qui proroge l'état d'urgence, cette loi ou le décret initialement qui crée l'état d'urgence puis la loi qui le proroge doivent contenir les dispositions restrictives des libertés. Donc en 2005, ça n'a pas les mêmes dispositions restrictives des libertés qu'en 2015. C'était à la limite moins important. Là, dans le décret de 2005, dans la loi de 2005, on trouve des restrictions de la liberté individuelle, la liberté de circulation par l'assignation à résidence. On trouve aussi la possibilité de perquisition administrative sur ordre du préfet, non pas du procureur, jour et nuit. On trouve aussi la possibilité d'interdire des réunions, d'interdire des manifestations, de fermer des salles de spectacle, de fermer des débits de boissons. Donc l'arsenal est quand même assez complet, et là je n'ai pas encore cité toutes les mesures qui étaient susceptibles d'être prises.
On a vu le Conseil d'État suspendre une assignation à résidence il y a quelques jours, qui était considérée comme abusive. On a vu aussi une vingtaine de militants écologistes lors de la COP21 être assignés à résidence. Ces mesures, qui pourraient être constitutionnalisées, auraient-elles une base juridique floue, Christian Bruschi ?
C'est le principe d'état d'urgence qui sera constitutionnalisé. Et puis, par la suite, chaque fois que l'on décrétera l'état d'urgence et qu'on le prorogera par une loi, eh bien, on précisera dans le décret, dans la loi, les mesures restrictives des libertés. Donc, il n'y aura pas dans la Constitution l'énumération des mesures restrictives de liberté. C'est très court, simplement, l'état d'urgence est décrété pour 12 jours par le gouvernement, et puis au bout de 12 jours, le Parlement peut le proroger. Voilà, c'est très bref ce qu'on va trouver dans la Constitution. Donc on n'aura pas de détails sur l'assignation à résidence ou sur les perquisitions administratives. Mais ces mesures, assignation à résidence et perquisitions administratives ou autres, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif si celui qui en est victime les juge illégal. Et il y en a eu un certain nombre de recours depuis novembre contre les mesures. Le problème, c'est que la justice administrative, disons, est assez réservée, assez frileuse, et qu'il a fallu attendre effectivement cette dernière affaire où le Conseil d'État a suspendu une assignation à résidence pour qu'il y ait une assignation à résidence suspendue. Jusque-là, la justice administrative avait couvert, y compris pour les assignations à résidence aux militants écologistes. Voilà. Pour d'autres assignations à résidence, l'administration, le ministère de l'Intérieur, voyant que le dossier n'était pas très bien ficelé, avait annulé l'assignation à résidence. Il y a eu quelques cas où, de lui-même, disons, le ministère de l'Intérieur avait annulé l'assignation à résidence parce qu'il savait que le dossier était vide.
Peut-on réellement imaginer une banalisation de l'état d'urgence en France dans un avenir proche ?
On ne peut pas prévoir l'avenir, c'est toujours délicat. Ce qui est certain, c'est que un état d'urgence qui serait prorogé encore une fois à partir du 26 février banaliserait incontestablement l'état d'urgence et ferait que l'on aurait recours par la suite plus facilement à l'état d'urgence que c'est le cas aujourd'hui. Et l'état d'urgence, ça peut être très dangereux parce que toutes les atteintes à la démocratie, que ce soit en Europe ou ailleurs, ont généralement commencé par la proclamation de l'état d'urgence. Effectivement, en Allemagne, l'état d'urgence a été utilisé, c'était l'état d'exception, a été utilisé plusieurs fois avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 par des gouvernements sociaux-démocrates, et ça a banalisé quelque part un régime d'exception. État d'urgence qui était inscrit dans la Constitution de Weimar, l'article 48 de la Constitution de Weimar.
Merci d'avoir répondu aux questions de La Grenouille, Christian Bruschi. Je rappelle que ce podcast est à réécouter sur www.radiogrenouille.com.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...